Et pas encore votre abri Tempo pour l'hiver? On a 12 modèles pleine grandeur en démonstration. GérardBourbeau.com.
Yo, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, and you're listening to the best radio in Quebec City, Boulevard 1021.
Boulevard 1021, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour.
Sans oublier les rendez-vous incontournables. Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h45. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Le Caucus avec Antonin Iaccarini à midi.
All right.
Boulevard 1021, maintenant 100% parlé en semaine.
100% talk!
Une propriété Leclerc Communication.
L'actualité présentée par Alimentation Première. Pour un service hors pair et une qualité de viande et de poisson inégalée, visitez alimentationpremière.ca.
Marceau, le matin, ben oui!
9h21, j'espère que vous me lâcherez pas pour le gala de la bouchée généreuse. On organisait ça sur le coin d'une table. C'est-à-dire, juste avant la pause, on s'est fait challenger par deux lutteurs. Ça va en prendre un autre puisque ce serait un combat final 3 contre 3. L'objectif, c'est de faire un beau gala, que la place soit remplie. La dernière fois, on était autour de 600 au même endroit, au Centre Horizon, où on a passé une magnifique soirée. Mais ce qui est important pour nous, c'est de ramasser des fonds pour la bouchée généreuse. Marie-Pierre Gravel, son père qui était là aussi, M. Gravel. Puis on a ramassé à la gang 21 000 $. La gang de la NSPW, la gang de Boulevard, mais surtout les auditeurs qui étaient présents. Puis les commanditaires aussi qui nous ont commandité pour cette soirée-là, pour que tout ce chèque-là puisse se rendre à la bouchée généreuse. Un gros merci. Mais lâchez-nous pas. Moi, je me rembarque là-dedans sur un entraînement assez intensif d'un mois.
Let's go, mon Marceau, t'es capable.
Je vais me battre, je sais pas trop contre qui.
Ouais.
Si c'est Dupont, il est à 300. J'en pèse 190. Fait qu'il y a quoi, 110 livres de différence, absolument?
Ben, tu vas apprendre à comment faire jumper le gars sur le ring. Tu vas être écœurant.
Je sais pas si je serais capable de lever Dupont. Ça serait comme Hulk Hogan.
Non, mais
contre
tu
le géant ferré.
Tu lèverais plus en souplesse arrière.
Ouais.
Hulk l'avait levé comme ça, le géant ferré. WrestleMania 3, c'était écœurant. Moment mémorable de lutte.
Le lever des heures, moi, je l'entendrai. Salut, Estelle.
Hey, super beau texto qui est rentré. Je fais du bénévolat pour la bouchée généreuse et 1500 personnes qui ont été aidées la semaine dernière. Donc, n'oubliez pas le galos pour la bouchée généreuse pour des gens qui ont faim.
Quand on était faire un tour pour la distribution des sacs aussi, on avait rencontré des gens de Trudel Alliance puis ils me racontaient tous les trucs qu'ils avaient mis en place pour que la bouchée généreuse puisse s'établir à cet endroit-là. Je m'attendais jamais à voir autant de monde qui avait besoin de nourriture à chaque jour. Ça a été face à face avec la réalité.
Ah oui, vraiment.
Je peux vous le dire. Donc, on organise un autre. Ça va être le 21 novembre. Puis, il y aura probablement de l'information qui va sortir dans les prochains jours ou peut-être la semaine prochaine, puisqu'on ne s'attendait pas à ce genre d'invitation-là. Mais je vous le dis, je ne reculerai pas comme je n'ai pas reculé l'an passé. Hey, le chum David Chabot, notre chroniqueur international, est en studio. Salut!
Salut, mon ami.
Très content de te voir. On va parler du Venezuela. On va parler du méchant président vénézuélien qui doit craindre le pire ces temps-ci, Nicolas Maduro. On parle de 5 embarcations qui ont été détruites par les Américains. Des embarcations qui partaient du Venezuela puis qui étaient supposés se diriger vers les États-Unis. Les Américains ont dit « Il n'y aura pas d'avocat, pas de cour, pas de juge. B-O-M-B, enter. » Les embarcations sont disparues. On parle d'à peu près 27 morts. À savoir si ces 27 morts-là, c'était tous des narcotrafiquants, on le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est que les Américains sont en sol vénézuélien, entre autres avec les CIA et Otto. Il y a même ça, c'est un peu plus inquiétant, un sous-marin à propulsion nucléaire là, qui est au large des côtes du Venezuela. Où est-ce qu'on en est actuellement avec cette opération-là? Puis est-ce que oui ou non, Nicolas Maduro a raison de craindre pour sa vie?
Écoute, ça brasse pas mal, là. Puis pour un président Nobel de la paix, il parle beaucoup de guerre en ce moment, là. Mais il y a deux choses vraiment importantes là-dedans. Premièrement, qu'un président annonce broadcast, là, tu sais, on va envoyer la CIA au Venezuela.
D'habitude, c'est secret, ces affaires-là.
Ça se jase pas trop sur la place publique, mais je sais pas. Il voulait son scoop, là, mais c'est quand même particulier parce que ces opérations-là, premièrement, doivent être approuvées par le Congrès, normalement, parce qu'il y a un comité permanent sur les opérations clandestines. Puis là, ben, ces gens-là, on sait même pas c'est qui est sur ce comité-là la plupart du temps, puis ils doivent approuver. Bon, fait que là, je pense pas qu'ils ont vraiment passé tous les formulaires
en effet
en bonne et due forme. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer réellement là-bas, ça n'a pas été annoncé. Donc, on dit, on envoie la CIA, on va faire des opérations clandestines, mais quoi, comment, pourquoi, où, on le sait pas trop. T'sais. Fait que ça, c'est la première affaire dans cette histoire-là. Comme tu dis, ben, il y a eu des frappes sur des bateaux, c'était en eau internationale. C'est très shady d'un point de vue droit international, parce que là, on se dit, c'est extrajudiciaire. Comme tu disais, c'est ton clavier BOMB, puis tout éclate, tu sais. C'est pas censé fonctionner comme ça, mais...
Mais ça convainc, par exemple.
Ben, c'est sûr que c'est des bons arguments.
Hein? T'es un narcotrafiquant, tu dis, bon, moi, si je pars avec mon bateau puis les satellites ou les drones m'aperçoivent, ils viendront pas me voir pour me dire, t'es-tu le petit Jean-François Fortin du Québec, là? Non, ça va être fini, c'est terminé, merci, bonsoir.
Ouais, mais tu sais, on rit de ça, mais il y a beaucoup de bateaux qui circulent dans les Caraïbes, là, puis tu sais, à un moment donné, évidemment, c'est pas un bateau de croisière qui va se faire attaquer, mais
non.
Les petits bateaux de pêche, de même, il y en a un million, là, fait que tu sais, le risque d'erreur est assez élevé. La justification derrière ça de Trump, c'est que le Venezuela, dans le fond, c'est un pays qui faciliterait l'exportation de drogue vers les États-Unis. Donc là, ça c'est toujours ça son mantra, finalement, c'est d'intervenir par rapport à la drogue.
Comme avec le fentanyl pour le Canada. Là,
exactement. Sauf que, tu sais, du côté du Canada, la quantité de drogue qui traverse la frontière aux États-Unis est minimale. Tout vient du Mexique. Dans le cas de la cocaïne, mettons, ça passe par le Venezuela, mais c'est 98% de la production vient de la Colombie. Mais là, on n'attaque pas vraiment la Colombie. On attaque, tu sais, dans le fond, on attaque FedEx, là, tu sais, de la drogue, tu sais. Puis là, ben, ça fait comme pas de sens d'un point de vue vraiment rationnel. Sauf que là-dedans, clairement, il y a plus large que ça parce que le président du Venezuela, Nicolas Maduro, ben, c'est sûr que c'est pas le meilleur chum à Trump. Puis ils se sont pas vraiment coltaillés officiellement. Il y a eu un peu de friction dans le passé, mais pas rien de grave tant que ça. Mais là, on arrive dans une situation où le message non dit, mais qui est sous-entendu, c'est on veut déstabiliser ce gouvernement-là puis même le faire sortir à terme. C'est pas exactement ce qui a été affirmé, évidemment. Mais
et pourquoi on veut le sortir, justement?
Ben, on s'en était déjà parlé du Venezuela ensemble, oui. Il y a une couple de semaines. Les États-Unis, dans le fond, il y a une doctrine qui date de 200 ans qui s'appelle la doctrine Monroe, qui dit que toutes les Caraïbes et l'Amérique du Sud, c'est la sphère d'influence des États-Unis. Donc, on veut contrôler ce qui se passe à cet endroit-là. Le Venezuela, on le sait, produit beaucoup de pétrole.
300 milliards de barils de pétrole.
Ils ont beaucoup de réserves, tu sais, puis ils font partie de l'OPEP+, là, l'OPEP qui est l'organisation de producteurs de pétrole. Là. Donc, ils ont quand même cette influence-là. Bien que les États-Unis, en ce moment, produisent plus de pétrole qu'ils en consomment à l'interne. Là, avec les gaz de schiste, tout ça, le pétrole de schiste, sont pratiquement autonomes là-dessus. Mais ça reste qu'il y a toujours un intérêt par rapport à l'or noir. Là. Donc là, il y a beaucoup ça. Puis c'est sûr que c'est un leader, je parle de Maduro, qui est très socialiste, très de gauche, puis très anarchiste au sens de défaire le capitalisme. Là. Donc, on peut comprendre, mettons, l'intérêt des États-Unis globalement d'essayer de le déstabiliser. Pourquoi Trump s'attaque à lui maintenant? Peut-être pour changer le narratif, tu sais, parce que là, il y a eu beaucoup de Gaza, beaucoup d'Israël. Là, on passe à d'autres choses peut-être, mais je la comprends pas tant que ça, cette histoire-là. Sincèrement, là, puis tu sais, on le sait qu'il est vraiment contre la drogue, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de présidents qui sont favorables à la drogue, mais on sent qu'il est vraiment comme engagé dans ce combat-là. Je pense qu'il y a un de ses frères qui avait fait une overdose, qui était alcoolique, quelque chose comme ça, là, un des frères de Donald Trump, je parle. Donc, ça doit venir le chercher personnellement, mais pourquoi là, maintenant, Venezuela, puis mettre de l'action, puis des bûches dans le foyer, là, je la comprends pas tant que ça.
Tu crois ça aux attaques terrestres? Là, je lisais ça dans les médias, là, qu'on serait peut-être rendu justement envoyer des gens sur Terre au Venezuela. Là, on était plus dans les voies maritimes.
Oui, ben j'y crois moyen au sens où, évidemment, ils ont la capacité de le faire. Là, demain matin, ils pèsent un piton, puis ça va durer 22 secondes parce que ça, les tanks ne roulent pas plus vite que ça pour aller à la capitale. Là. Mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi faire ça? Puis après ça, on revient souvent à la leçon historique. Là, quand les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, puis l'Afghanistan en 2001, là, ils ont eu un immense succès militaire. Là, ça a été vraiment, one way comme combat. Mais là, après ça, tu fais quoi? Là? Parce que là, tu as renversé le gouvernement, tu as mis tout le monde à la porte, tu as fermé l'armée, là, tes amis, tu as cassé le bail avec eux autres.
Ça n'a pas fonctionné en Afghanistan, ça n'a pas fonctionné en Irak.
Fait que là, tu fais quoi au Venezuela? Si tu veux vraiment t'impliquer là-dedans, mais il faut que tu ailles un plan B ou en tout cas une succession ou quelqu'un qui va prendre le lead après. Puis là, ben, à ma connaissance, c'est pas vraiment identifié là, cette relève-là.
C'est weird, parce que d'un bord, on juge Poutine de vouloir élargir son territoire.
Puis de l'autre bord, Trump le fait.
De l'autre bord, Trump, ah ben, Maduro, c'est un tout croche. Et effectivement, c'est un tout croche, mais lui, ce qu'il veut, c'est remettre ce coin-là en ordre, le Venezuela. Mais il y a un 300 milliards de barils de pétrole,
ben oui.
Là. Il y a une certaine richesse. Ce que les Américains,
c'est ce qu'ils recherchent.
Peut-être. Oui, puis en même temps, des gouvernements, puis tu me le diras, mais des gouvernements de coalition ou transitoire comme ça, c'est très difficile. Ça a été difficile en Irak, difficile en Afghanistan. Là, on voit ce qui se passe présentement dans la bande de Gaza, c'est pas gagné du tout. Fait que Venezuela, il y aurait ce risque-là aussi.
Bien, c'est ça. Premièrement, il faudrait qu'il y ait un leader qui est populaire, qui veut remplacer Maduro. Puis Maduro n'a peut-être pas la cote de popularité qu'il y a eu dans le passé, puis que Hugo Chavez avant lui avait, mais il est quand même encore stable. T'sais, ça brasse un peu au Venezuela, mais pas au point de dire que c'est une révolution civile. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des activités qui vont se passer là pour essayer de déstabiliser tout le monde puis de les mettre ses talons, mais je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à envahir le pays. Il fait cette menace-là pour essayer de gagner un levier, puis c'est ce levier-là que je comprends pas encore parfaitement, parce que oui, il y a la drogue, mais il y a autre chose là-dedans, puis je pense pas que c'est juste le pétrole non plus. Est-ce qu'il veut mettre un pied à terre dans l'Amérique du Sud pour reprendre le contrôle, dans le fond, de cette région-là, puis l'espèce de fruit le plus mûr à aller chercher sur l'arbre, c'est le Venezuela? C'est peut-être ça aussi qu'il veut faire, là. Bien que c'est pas toutes des puissances militaires, là, on se comprend. Là. Donc, à suivre, là, les prochaines semaines vont être assez intéressantes parce que c'est rare qu'on mette dans la place publique la CIA. Tu sais.
Sinon, en deux minutes, tu venais nous parler des élections à Terre-Neuve.
Hey, c'est vraiment niché là, de parler des élections à Terre-Neuve parce que sincèrement...
C'est les conservateurs qui ont passé.
Ouais, avec 21 sièges sur 40, donc ils ont la majorité. Puis c'est rare que je me lève la nuit pour réfléchir au futur de Terre-Neuve. Okay? Mais c'est pas nécessairement un sujet d'intérêt.
Ah,
sauf
tu
que...
vois, moi, ça m'aurait pas surpris. Je connais un peu le gars.
Bon, OK, peut-être un peu. Là, mais ça pour dire que, tu sais, on connaît bien, ou en tout cas, on connaît un peu là, le barrage de Churchill Falls qui est au nord du Labrador. En tout cas, à peu près au milieu là, du Labrador. Pour rappel, pour mémoire, là, en 1969, on a signé un deal avec Terre-Neuve-Labrador pour dire on va Hydro-Québec là, va acheter 34% de la participation dans un barrage qui va se faire à Churchill Falls. On va le faire, puis après ça, nous autres, on va acheter l'électricité à pas cher. À ce moment-là, on l'achetait à 0.3 sous du kilowattheure. Okay? On se rappelle que nous autres, dans la maison, là, chez nous, on paye à peu près 6 cents du kilowattheure. Là. Donc là, on paye encore aujourd'hui, 40-50 ans plus tard, le même prix. 0.3 cents du kilowattheure pour l'électricité qui est produite.
Ça fait pas l'affaire là-bas. Là.
Exact. Le nouveau premier ministre conservateur, là, son nom échappe. Wakeham, je pense, son nom.
Oui, exactement. Tom Wakeham.
C'est ça. Dans la campagne, il n'a pas dit je vais. Parce que là, en ce moment, ce qui est important de dire, c'est que François Legault a renégocié, si on veut, cette entente-là, avec une entente de principe. Là, le deal n'était pas signé final, avec le premier ministre précédent qui était libéral. Puis dans la campagne, M. Wakeham des conservateurs a dit « Moi, cette entente-là, pas certain m'a respecté, mais il a pas dit « Je vais la déchirer non plus. »
Non, il a dit qu'il allait faire il allait la faire évaluer par une firme indépendante pour voir si c'est une bonne entente pour Terre-Neuve.
C'est ça. Fait que là, tu sais, probablement qu'on va donner encore des contrats aux firmes de management externe. Là, on est fort là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même du positif pour Terre-Neuve-Labrador dans le deal qui avait été proposé parce que nous, on va participer à la construction de nouvelles infrastructures pour développer encore plus leur capacité de production d'électricité. Puis pour nous autres, ben, ça remplit notre besoin. Parce que là, il y a quelques mois, on en avait besoin de l'électricité. Là, après ça, finalement, on n'a plus tant que ça. On ne le sait plus. Là, mais ça reste que tu n'as jamais trop d'électricité en stock ou en tout cas en capacité de production. Donc là, nous, on a de l'intérêt là-dedans. Puis Terre-Neuve aussi, quand même, de développer tout ça. Sauf que là, le deal qui a été re-signé à 6 cents quelque chose, 6,9 cents du kilowattheure, ben, justement, M. Wakeham des conservateurs dit c'est peut-être pas le bon deal, c'est peut-être pas assez cher. Mais nous autres, ça va avoir un impact direct parce que tout ce volume d'électricité-là, qui est à peu près 30% de ce qu'on consomme au Québec, on le payait 0.2 cents même du kilowattheure maintenant parce qu'il y avait comme une espèce d'annexe au contrat puis on payait moins cher même qu'originalement. Donc là, quand tu crains ça de 20-30 fois le même prix, ben là, nous autres, ça va se refléter finalement sur notre compte d'électricité. Fait que peu importe ce qui va se passer dans cette histoire-là, ne soyons pas surpris que le tarif d'électricité va augmenter dans le futur.
Incroyable. David Chabot, on se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Bien sûr, tout le temps.
Fais attention à toi. 9h34, merci. On s'arrête. Boulevard 102.1. Marceau.